Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 16 décembre. Comme à notre habitude, bonne habitude, je crois, on est là pour vous parler de voyage, de nature et de science. Bonjour, André-Étienne.
Bonjour, Michel.
Ça va bien?
Parfaitement bien, merci.
On hésite à savoir si on est en hiver ou c'est pas encore très clair.
Mais en tout cas, pour le moment, c'est confortable.
On est bien, on est bien. André, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler d'un article qui s'appelle « Dans les secrets de la civilisation maya ».
Oui.
Je vais vous lire aussi comme un petit article sur « La justice sous influence ».
On en parle beaucoup de la justice ces jours-ci.
Bah oui, en plus avec le procès.
Le procès est important, oui.
Et ensuite, une pharmacie dans la cuisine.
Ah oui.
Alors, je ne vous en dis pas plus.
On verra. Ça semble intéressant. De mon côté, je l'amène faire un tour au Rwanda. Vous savez que le Rwanda, ben, tout le monde s'en rappelle, en 1994, le génocide. Hein? Mais maintenant, c'est devenu un pays intéressant sur le plan touristique. Puis, vous savez aussi que lorsqu'on part en voyage, l'aéroport, ça peut être particulièrement onéreux. Bon. On est en train de développer des technologies pour que ça soit beaucoup plus rapide. Mais vous allez voir jusqu'où on va. C'est assez spécial. Et je vous amènerai faire une petite balade avec Minou.
Oui!
Alors, on va faire le tour au Rwanda. Et c'est tiré d'un article de Jean Thomas, L'Éveillé, dans la presse du 22 novembre. C'est un pays diversifié, le Rwanda. C'est petit, d'abord, et c'est vallonneux. Ça offre un condensé du continent africain, si vous voulez. Vous avez des zèbres, éléphants, girafes, des animaux typiques de la savane, qui se côtoient partout dans la plaine. Et c'est à la frontière avec la Tanzanie et l'Ouganda. La Tanzanie qui est particulièrement connue pour ses parcs nationaux et ses safaris.
Ben oui.
À l'autre bout du pays, près du Burundi, du Congo, vous avez la forêt tropicale, montagneuse. Et ça abrite une flore époustouflante, luxuriante. Et entre les deux, vous avez Kigali. Kigali, la moderne, hein? Avec une effervescence, des cafés, des restaurants. Et avant, on nous dit qu'au Rwanda, on y venait 3 jours. Et maintenant, c'est autour de 10 jours qu'on y va. Et ça, c'est un ancien de l'agence gouvernementale qui gère le tourisme. C'est lui qui nous le dit. Et outre ces célèbres gorilles et ces parcs nationaux, le Rwanda mise maintenant sur le tourisme sportif. Le camping, de la randonnée pédestre, le vélo de montagne, tout terrain.
Ah,
oui, c'est assez développé.
Ouais.
Et si l'Afrique a la réputation d'être une destination touristique de luxe, je pense à l'Afrique du Sud, particulièrement le Kenya, souvent inaccessible au commun des mortels, le Rwanda, lui, s'emploie à renverser la tendance depuis quelques années. Et fait plutôt rare en Afrique subsaharienne, on trouve un grand nombre de maisons d'hôtes, ce qu'on appelle les guest house, si on veut. Et des auberges pour les petits budgets, mais aussi un grand nombre d'hôtels qui vont combler les budgets moyens et même les grands budgets, donc des très beaux hôtels. Et contrairement à d'autres pays d'Afrique où il faut prendre un petit avion ou même l'hélicoptère pour se rendre au milieu d'un parc national pour faire un safari de luxe souvent, les 3 parcs nationaux du Rwanda sont facilement accessibles par la route. En fait, on peut aller n'importe où au Rwanda à partir de Kigali en moins de 3 heures de voiture.
Là, je ne suis jamais allé dans ces pays-là, je le reconnais, je le regrette. Mais l'état des routes, est-ce que ça doit être pire que nos routes à Nid-de-Poule?
Si on parle du Rwanda, les routes sont en excellent état. Et aussi, des panneaux de signalisation apparaissent peu à peu depuis 2011.
Okay.
Et le gouvernement prévoit aussi la construction de centres d'information pour 2017.
Génial.
Ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays. Je me rappelle au Kenya, le Nid-de-Poule ici, c'est rien du tout. On est obligé de faire des routes. Les gens passent à travers les champs pour éviter la route. Mais Rwanda, l'état des routes est vraiment intéressant.
Bon,
qui dit Rwanda dit inévitablement génocide. Il est impossible de faire abstraction de ce événement très triste, évidemment. L'attention que le monde a portée sur le pays en 1994 perdure encore.
Mais attendez, voilà. De quelle façon ce devoir de mémoire se concrétise? Parce qu'il peut rester quand même quelques mésalliances
en
encore.
En fait, vous avez, disons, un mémorial sur le génocide dans chacun des 30 districts du Rwanda. Donc, on retrouve cette mémoire peu partout. C'est incontournable.
Ah oui.
Et l'histoire du Rwanda ne se résume cependant pas au génocide. Heureusement, le développement du tourisme Rwanda passe aussi par les musées, ce qui permet aux visiteurs de suivre de véritables cours d'histoire, de géographie et même d'ethnologie et de climatologie aussi sur le pays et le continent. Le parc des volcans offre différentes randonnées pédestres guidées, dont une qui permet de voir le cratère du volcan qui s'appelle Bisoke. Mm. Et ce parc est la portion rwandaise de la chaîne de montagnes volcaniques qui compte deux volcans qui sont encore actifs au Congo, en fait. L'éruption en 2002 du Nyiragongo avait ravagé le centre-ville de Goma. Et c'est aussi dans ce parc que l'on peut faire la célèbre randonnée d'observation des gorilles.
Ah, je sais bien que ça fait partie de vos aspirations, mais ça doit coûter une petite fortune, cette histoire-là. Hein?
Ça coûte quand même très cher. Le prix est de 850 $. Et quand on parle d'or, ordinairement, c'est toujours US. Oui, pour une randonnée.
Oh,
absolument.
C'est un beau
cadeau. Mais c'est unique, cependant.
Un beau cadeau de Noël.
Je veux dire, une fois que vous êtes rendu au Rwanda, ça peut valoir la peine de faire le détour.
Ah, quand
même.
Tant qu'à faire d'y aller. Hein?
Ah, j'ai toujours voulu faire ça.
Ah oui, je sais que ça fait partie de vos...
Vous avez aussi le parc national de l'Akagera, qui représente le safari africain traditionnel, ce qu'on vit au Kenya, en Tanzanie. Vous savez, la plupart des films qu'on voit sur les safaris, c'est pris ordinairement. Le parc Masai Mara au Kenya et le Serengeti aussi, qui est en Tanzanie. Et vous avez tous les animaux traditionnels, girafes, éléphants, hippopotames, crocodiles, zèbres, buffles, antilopes, toute la série.
Les ressources animales de l'Afrique.
Mais il ne faut pas penser, cependant, dans un safari, que les animaux vont venir gambader devant nous. Ce n'est pas un film. Il faut être très patient. Ordinairement, ce qu'on fait, c'est qu'on sort à 3 heures du matin, très, très tôt, parce que les animaux... ce moment-là, et à la fin du jour.
C'est partout
parce
pareil,
que souvent, c'est trop chaud.
Mais dites-moi quand même, là, ce ne sont pas des safaris de chasse, ce sont des safaris d'observation.
Ce sont des safaris d'observation.
Ah, ça me rassure.
Les seuls qui font la chasse maintenant, ce sont les braconniers. Et malheureusement, ils sont omniprésents un peu partout.
Ne dévoilez rien, j'ai un article pour vous la semaine prochaine.
Ah, pour vivre pleinement l'expérience, il faut passer la nuit dans le parc. Il y a des sites de camping. Une chose qui m'a toujours étonné, c'est de voir les gens en camping.
Recevoir des matrocos sur la tête pendant la nuit, oui.
C'est assez particulier. Alors, un petit tour d'horizon pour vous montrer que le Rwanda, ce n'est pas que le génocide de 1994. C'est maintenant un endroit touristique très intéressant. Et c'était tiré d'un article de Jean-Thomas Léveillé dans la presse du 22 novembre.
Merci pour ce beau voyage. C'est un voyage dans le temps que je vous propose avec un article de Bernadette Arnault, extrait de Science et Avenir du mois d'octobre 2014. Donc, dans les secrets de la civilisation maya. N'est-ce pas, hein? Oui, c'est parce qu'en ce moment, à Paris, au musée du Quai Branly, une exposition qui est ouverte jusqu'au 8 février et c'est la plus grande exposition jamais réalisée sur le peuple maya. 400 pièces sont prêtées par le Mexique. Cette civilisation, elle est absolument fascinante, énigmatique. C'est elle qui a dominé le monde méso-américain. Par le mot méso-américain, j'ai regardé un petit peu. Ça veut dire que c'est la zone qui va du Mexique au Honduras et au Salvador, en passant par le Guatemala et le Belize. Donc, ces Mayas, ils ont en effet dominé ce monde pendant approximativement 2000 ans, c'est-à-dire du début du premier millénaire avant notre ère de Jésus-Christ jusqu'au XVIe siècle. À partir de cette époque, les conquistadors européens sont arrivés.
Oui.
On connaît la suite.
Pour l'ensemble de l'Amérique centrale, ce qui est maintenant Amérique centrale et Amérique du Sud.
Oui, oh, destruction de la culture. Mais un petit peu d'histoire quand même, il faut y revenir.
Oui.
C'est entre 600 et 300 avant Jésus-Christ que d'importants centres urbains voient le jour. Et c'est à cette époque qu'émergent d'immenses ensembles cérémoniels. Des pyramides colossales à degrés. Le temple de Tikal, par exemple, au nord du Guatemala, mesure quand même 47 mètres.
Oui, c'est imposant. Quand on pense aussi aux moyens de l'époque, hein, ce qu'on avait comme moyen.
47 mètres,
c'est toujours étonnant.
Assez imposant. Hein? Il disposait également d'une écriture hiéroglyphique, on est quand même avant Jésus-Christ, hein? Et d'un système de calcul et de mesure du temps. C'est aussi à cette époque quand même qu'une élite a peu émergé, il fallait bien évidemment, et que quelques familles ont cherché à dominer toutes les autres. Ça, c'est l'éternel problème de l'homme avec un grand H.
Ah oui.
Et cette élite d'ailleurs qui va commencer donc à cette époque-là, elle va devenir les prémices des royautés sacrées à venir. Mais c'est surtout entre 250 et 900 après Jésus-Christ que s'est mis en place un système de domination politique là qui était fondé. Sur quoi ? La guerre, évidemment. Donc, la lutte contre les cités voisines est devenue un instrument de pouvoir au service des gouvernants successifs, qui sont à la fois les souverains et les guerriers. Et c'est par ce biais que les différentes cités ont commencé à se livrer de constantes compétitions de prestige, avec donc une explosion de la production artistique. On est bien content de les avoir maintenant, n'est-ce pas ? Mais quand même, ça a conduit finalement à une surexploitation des ressources environnementales. Lesquelles compétitions, plus nombreuses périodes de sécheresse, plus accroissement des populations, ont finalement abouti à l'épuisement des ressources agricoles par voie de conséquence, abandon de ces grandes cités et effondrement des pouvoirs politiques. La lecture des inscriptions, c'est intéressant parce qu'elle nous permet de mieux comprendre le mode de fonctionnement de ces élites qui voulaient pérenniser leur hégémonie, évidemment. Alors imaginez, afin de maintenir leur pouvoir, les souverains mayas persuadaient l'ensemble de chaque communauté que leur propre ancêtre était celui de tous.
Il y avait un pouvoir de conviction assez imposant. Hein?
Probablement.
Comme nos politiciens, d'une certaine façon.
Absolument, c'était les politiciens des premières ères.
Oui.
Mais ces monarques invoquaient quand même aussi et surtout pour les convaincre, les aïeux, les forces sacrées tutélaires, les entités fondatrices, et ils se positionnaient comme unique intermédiaire entre les dieux et les hommes. Donc, ils étaient... On ne pouvait pas... Incontournable, hein? Mais ça leur donnait aussi, de ce fait-là, un pouvoir exorbitant sur les vivants comme sur les morts. Alors, dans cet article, donc, de Bernadette Audette, sont évoqués les rites funéraires aussi. Et, tenez-vous bien, c'est seulement en 1952 qu'on a découvert la tombe du plus célèbre souverain maya qui s'appelle Quinichanabpakal.
Ah oui!
Mais qui a permis de comprendre que les pyramides mayas servaient de tombeau. Et l'expo présente en fait un imposant sarcophage qui contenait les restes du roi, mais accompagné quand même de 6 victimes sacrifiées avec lui.
Ah oui.
Aussi, un important trésor de bijoux, de jarres, de parures d'une grande richesse, et déposé sur le sarcophage des masques. Des masques généralement de jade, qui représentent l'homme avec des pommettes saillantes et une coiffure qui soulignait la forte déformation volontaire du crâne. Et ça, c'est une coutume des membres de l'élite maya. Alors, comme il ne donnait pas trop d'informations, je vous donnerai plus d'informations sur cette coutume-là à la fin de l'article, si j'ai un moment.
Juste un petit complément, une petite chose à mentionner. On confond souvent Maya, Aztèque et Inca. On aura à y revenir à un certain moment donné, lorsqu'on parlera, par exemple, d'Amérique du Sud.
Absolument.
Il y a une question géographique à l'intérieur de ça.
Absolument.
Donc,
absolument.
Aujourd'hui, on parle des Mayas.
On parle des Mayas, absolument, ça. Dans l'exposition, donc, aussi, le monde funéraire Maya est abordé à travers des reconstitutions d'inhumations. Ça, c'est important parce qu'elles peuvent présenter des corps comme momifiés à partir d'un traitement à base de résine enveloppé de bandelettes et qui sont souvent accompagnés de récipients, perles de jade, offrandes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des objets fondamentaux, dont des aiguillons de raies, des lames d'obsidienne, destinées aux autosacrifices, parce que les rituels sacrés consistaient à s'infliger des saignées, car le don de sang constituait l'offrande aux dieux la plus précieuse. Merci Jean-Sébastien de nous faire voyager encore avec cette chanson de Madagascar, d'une interprète qui s'appelle Radia Saïd, Nyalantika, qui veut dire la nécessité.
Oui, selon notre connaissance du malgache.
Oh ben bravo. Mais c'est Jean-Sébastien qui a fait la recherche qui nous a aidé à connaître.
Une chance que Jean-Sébastien est là.
Oui.
Embarquement immédiat pour l'aéroport. Aéroport du futur. C'est par Bi An Vu Van. Et c'est tiré d'une revue récente qui s'appelle Curium, novembre-décembre 2014. Fort intéressant sur toutes sortes de petits articles. Alors, vous savez que avec les contrôles de sécurité maintenant, souvent, les voyageurs passent plus de temps à l'aéroport, même parfois que dans les airs.
Ça, c'est bien vrai.
Alors, ça peut devenir assez pénible parfois. Et si tout à coup, les technologies pouvaient changer la donne?
On aimerait ça.
Ah oui. Alors, voilà différentes technologies que je vous propose. Dès que vous réservez un vol, des logiciels analysent votre profil en tenant compte de votre itinéraire, des motifs de votre voyage, des gens qui vous accompagnent. Alors, ces programmes permettraient de comparer vos informations à celles de différentes bases de données internationales. Alors, le but, c'est d'évaluer le risque que vous représentez pour les autres passagers ou pour le pays où vous allez.
Est-ce qu'ils vont nous évaluer les risques que les autres peuvent présenter pour nous?
Tout à fait, c'est interchangeable. Alors, plus votre profil est jugé suspect, plus on vous attribue un pourcentage de risque élevé. Autrement dit, vous avez une note de passage.
Oh.
9 sur 10, Alors, cette note sera ensuite rajustée lors de votre passage à l'aéroport selon l'analyse des images, de caméras, de contenu de vos valises, de vos comportements, et elle sera acheminée au point de contrôle. Alors, plus elle sera élevée, plus les mesures de sécurité et de vérification seront serrées.
Mais est-ce que c'est déjà en place, là, ce système-là, ou ça
Actuellement, seuls les noms, itinéraires et réservations d'hôtels sont compilés et transmis aux douaniers. Le reste est à venir. C'est en développement.
Bonjour la technologie.
Maintenant, le passeport. On entre dans la zone d'embarquement presque aussi rapidement que dans le métro. Et là, je parle du futur. À une borne informatisée, vous glissez votre passeport électronique sur un lecteur à puce. Alors, ce passeport comprend des informations sur votre identité, la géométrie de votre visage et d'autres données biométriques. Des appareils scannent votre visage, vos empreintes digitales, votre iris ou même les veines de vos mains.
Les veines de mes mains.
Ouais. Et puis, des logiciels valident votre identité.
Et là, ça se passe un petit peu comme ça déjà, Dorval. Hein?
Vous savez que plus de 100 pays délivrent des passeports électroniques, dont le Canada depuis l'été 2013.
Ouais.
Plusieurs aéroports testent maintenant des bornes biométriques.
Je ne sais pas si elles sont biométriques, Dorval.
Non, contre. Pas vraiment.
Okay.
Et maintenant, autre chose, en 2025, on traverse le point de contrôle sans même s'en apercevoir. C'est un tunnel de quelques mètres que les voyageurs franchissent avec leurs valises. Plus besoin de retirer vos vêtements, de vider vos sacs. Les murs de ces corridors cachent des scanners corporels et de bagages, des détecteurs de métaux, des caméras. Alors, si vous transportez des liquides ou des aérosols à bord, des appareils à rayons X distinguent les produits explosifs dangereux des autres liquides aussi. Et si une anomalie est détectée lors du passage, un agent vous escortera, évidemment, pour des fouilles plus approfondies. Donc, c'est un tunnel.
Oui, mais si c'est des rayons X, là, si on passe souvent là-dedans, dans les rayons X à grande quantité, c'est pas très, très bon pour l'organisme,
Peut-être.
Il va falloir qu'ils nous en mettent infinitésimal.
Oui. Mais vous savez que vous avez des prototypes de la sorte qui ont déjà été présentés. Toutes ces techniques existent, mais doivent être améliorées et intégrées. Ces couloirs pourraient être testés d'ici 5 ans. Environ. Wow. Mais peut-être aussi que la question du rayon X sera examinée à ce moment-là.
J'espère bien.
Autre chose qui m'a étonné, des chiens clonés. Une armée de chiens d'élite clonés est entraînée pour détecter des drogues et des armes. On a des chiens actuellement, mais là, des chiens clonés. Ces clones sont génétiquement identiques à un type qui existe actuellement, un labrador, un chien au flair exceptionnellement fin.
Ouais.
Alors, un tel groupe de chiens est en fonction à l'aéroport en Corée du Sud actuellement.
Ah oui?
Donc, ce sont des technologies en développement. C'est pas simplement une image du futur.
Oui.
C'est vraiment... Maintenant, vous avez l'aéroport qui voit tout. Dans l'aéroport, vous êtes épié par des centaines de caméras haute définition avec des zooms. Certaines peuvent même scanner un iris à 12 mètres de distance.
Wow.
Des logiciels analysent ces vidéos, repèrent les déplacements inhabituels, les expressions faciales étranges, les comportements suspects, puis... Il les signale aux agents.
Big Brother.
Bonjour. Ah, c'est vraiment ça, hein? Mais plusieurs aéroports se sont dotés de caméras à haute définition et des logiciels d'analyse sont en développement actuellement. Donc, et vous avez le détecteur de mensonges. Si un agent vous interroge, vous avez intérêt à ne pas lui mentir, hein? Des caméras thermiques en haute résolution, braquées sur votre visage, détectent les mensonges en analysant le mouvement de vos yeux et de vos paupières, la dilatation de vos pupilles et de vos narines, la chaleur de votre front et de vos joues et votre déglutition.
L'horreur, écoutez.
Et ça, c'est dans un instant. Hein? C'est
bien,
instantané. On nous dit que ces caméras ont été essayées au Royaume-Uni, mais on nous dit que l'instinct des douaniers est encore meilleur. Puis, j'en aurai d'autres. Je vous les soumettrai à d'autres moments.
C'est en tout cas passionnant, merci.
Donc, c'était tiré de Curium par Bin An Vu Van. Curium.
Je voulais apporter quelques petites précisions que je vous avais promises concernant cette coutume, concernant les crânes déformés. D'abord, il faut savoir, j'ai appris ça, qu'on les trouve un peu partout dans le monde, aussi bien en Asie qu'en Europe ou évidemment en Amérique centrale. Et à certaines époques, ces difformités et malformations étaient considérées comme un signe distinctif, même une sorte de marque de sélection. Alors, souvenons-nous d'ailleurs de la superstition qui incitait à toucher la bosse des bossus, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que naquit la tradition des rois, chez les rois, les nobles, les élites, de comprimer les crânes pour s'identifier aux dieux descendus du ciel et surtout acquérir leur pouvoir. On peut se demander comment ils avaient vu la forme des crânes des dieux quand même. Hein? Donc cette pratique consistait à comprimer le crâne d'un nouveau-né dès l'âge de 6 mois jusqu'à 10 ans entre deux plaques de bois maintenues par des lanières serrées de manière à obliger les os du crâne à croître en donnant une forme oblongue. Vous imaginez que la mortalité était non négligeable. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et je voulais aussi vous signaler que si les peuples de cette région du monde vous intéressent, notez que le musée de Pointe-à-Calière nous proposera à partir du 29 mai une exposition sur les Aztèques, peuple du soleil. Et que maintenant, il y a une exposition absolument superbe sur les Grecs à ne pas rater pendant les vacances de Noël.
Oui, belle occasion.
Oui.
Kiosque Magazine.
Alors, c'est un article que je voudrais vous lire vraiment. Ça s'appelle « Une justice sous influence ». Et ne croyez pas surtout que j'ai perdu la tête et que je sors de notre mandat science, nature, voyage. Vous allez entendre pourquoi cet article se retrouve dans la revue « Pour la science ». C'est un numéro spécial du mois de novembre 2014. La justice scientifique, pratiquement, oui. Et c'est un article de Gérard Bronner, qui est professeur de sociologie à l'Université de Paris Diderot. Donc, il dit que la justice est supposée être impartiale, mais elle est rendue par des juges qui peuvent être influencés à leur insu par leur environnement. Bon, on sait que la justice, elle est représentée toujours par une femme qui tient un glaive dans une main, une balance dans l'autre, et que son regard est dissimulé pour éviter justement que des éléments perturbateurs puissent influencer son verdict. Donc, il est naturel pour nous d'attendre de la justice qu'elle soit impartiale et indépendante. C'est une demande légitime des citoyens qui ont la chance de vivre en démocratie, n'est-ce pas? Seulement, dans ces mêmes démocraties, on ne cesse de l'accuser de ne pas toujours prendre des décisions équitables. Et il est vrai que certains jugements peuvent nous laisser dubitatif.
Oui, je pense que de toute façon, le juge arrive avec son bagage. Je pense que chaque être humain, de toute façon, On est biaisé d'une certaine façon.
Oui, c'est exactement vrai. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans cet article-là, parce qu'il écrit, il dit ce serait une violation de la déontologie des magistrats qui rappelle que l'impartialité ne s'entend pas seulement d'une absence apparente de préjugés, mais aussi plus fondamentalement de l'absence réelle de parti pris. Alors, aussi incommode que soit cette idée, c'est pourtant facile de montrer que les professionnels de la justice peuvent se laisser influencer par des facteurs arbitraires. Parce qu'avant d'être des juges, ils sont des humains.
Tout à fait.
Dont le cerveau est une machine à la fois merveilleuse et faillible.
Ben oui, vous arrivez sur le banc avec 60 ans ou 70 ans de vécu.
Exactement. Alors là, il y a deux études, et c'est là où je disais que c'est quand même... On se rapproche de la science avec la justice. C'est une première étude qui a montré que des juges devaient statuer sur des demandes de liberté conditionnelle et qu'ils étaient nettement enclins à accepter un jugement plus léger s'ils avaient déjeuné ou pas déjeuné. C'est quand même fou, mais c'est vrai, ça a été vraiment vérifié scientifiquement.
Bu ou pas bu.
Voilà, s'ils étaient rassasiés ou non. Alors bon, c'est pas très très grave. Quand on est conscient de cet aspect-là, on peut rétablir le déséquilibre et puis s'organiser pour que on ait une petite pause lunch pour éviter ce déséquilibre de jugement. Mais une autre étude là de psychologues allemands et ont montré que des juges pourtant expérimentés peuvent se laisser influencer par un résultat parfaitement arbitraire qui correspond à un lancer de dés. Alors comment s'y sont-ils pris? Et ils ont soumis à ces professionnels le cas d'une femme coupable d'un vol à l'étalage. Son dossier présentait exactement les mêmes données pour chacun des sujets d'expérience. La seule différence venait de ce que l'on tirait devant eux, un dé. Et ils devaient dire si le nombre de mois de prison infligés devait être supérieur ou inférieur au chiffre apparaissant sur le dé. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le dé en question était pipé. Il n'y avait que le chiffre 3 et le chiffre 9. Alors, ceux pour qui le dé indiquait le chiffre 9, en général, condamnèrent la voleuse à 8 mois de prison. Mais ceux qui avaient obtenu le chiffre 3, lui en donnaient 5. Alors, c'est quand même intéressant parce que c'est même inquiétant un peu.
Oui.
Parce qu'il s'agissait de juges qui étaient expérimentés et qui se laissaient influencer à leur insu par un simple lancer de dés. Alors, que peut-on penser de l'impartialité de leur jugement lorsqu'ils sont confrontés à la polémique médiatique, à des enjeux idéologiques dont on suppose qu'ils ont un pouvoir qui était encore supérieur à celui des dés? C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ce professeur donc, de sociologie, il dit qu'il n'y a pas de raison de désespérer de cette institution. Mais c'est une occasion de rappeler cette évidence que si la justice doit être au-dessus des hommes, c'est bien par des hommes qu'elle est administrée. Et que c'est peut-être important justement, qu'il n'est pas absurde que dans les écoles de magistrature, on enseigne désormais quelques bases concernant le cerveau, le fonctionnement du cerveau humain. Parce que, en effet, il n'est pas de meilleure méthode pour déjouer les contraintes qui s'exercent sur nous que de les connaître pour essayer de les apprivoiser. C'était donc l'article de Gérald Bronner, professeur de sociologie à l'Université Paris-Diderot.
On fait une petite balade avec Minou.
Miaou, miaou, miaou!
Oh, il est dans le studio. C'est Stéphanie Vallet qui nous en parle dans la presse du 25 octobre. À première vue, ici, à première vue, ça peut paraître inusité. Ben, se balader avec son chat dans la rue, comme on le ferait avec Pitou, avec un chien, serait en fait une très bonne chose. La grande majorité des problèmes de comportement des chats sont reliés au fait qu'ils s'ennuient à la maison. Alors, s'il est recommandé de jouer au moins 2 fois 15 minutes par jour avec votre compagnon, il serait encore mieux de l'amener faire une balade en votre compagnie.
Ah, et
c'est pas moi qui le mentionne, c'est une spécialiste.
Ben, est-ce qu'on peut les entraîner à se balader avec nous? Dans la maison, ils font toutes les bêtises possibles. Hein?
Oui.
Ils montent dans les plantes,
attrapent
les boules de Noël.
Il semblerait, selon ce que cette dame nous dit, cette spécialiste, une éducatrice félin qui s'appelle Danielle Filion, et elle nous dit que oui, c'est une question d'entraînement. Mais pourquoi pas simplement laisser aller tout seul dehors? On pourrait faire ça. Mais elle nous dit qu'en ville, c'est pas vraiment recommandé à cause des maladies, des dangers représentés par les véhicules, bien sûr, et le stress qu'ils doivent subir en se retrouvant dans un environnement de surpopulation féline. Assez important.
Est-ce que ce serait les chats dominants qui ont plus la facilité d'aller
ça.
Se promener dehors?
Oui. Ils vont devoir se battre, ce qui va augmenter, bien sûr, le stress, ce qui amène inévitablement des problèmes de comportement à la maison aussi, par la suite.
Ça me fait penser, ma fille a 4 chats, puis il y en a un qui se balade, là, qui sort de la maison par l'arrière, qui fait le tour du pâté de maison, qui revient par l'avant. Mais c'est le seul des 4.
Ben, il est bien élevé.
Je vais voir si c'est le dominant.
Oui. Alors, en gardant Minou à la maison, quand on habite en milieu urbain, on triple son espérance de vie. Et ça, c'est étonnant. Hein? Un chat d'extérieur ne vit en moyenne que 5 ans. C'est pas beaucoup, mais il doit se battre.
Ben, c'est comme les animaux en captivité. En captivité, ils vivent toujours plus longtemps que dans la nature.
Le chat d'intérieur, si on veut, c'est un chat qui va vivre autour de 15 ans. Alors, voici comment procéder. C'est notre spécialiste qui le mentionne. Comment procéder pour que Minou apprécie ses sorties en votre compagnie? La première chose, se procurer un bon harnais et non pas un collier comme un chien. Il peut se glisser à l'extérieur du collier ou encore s'étouffer, si on veut. Hein. Mm-hmm. Mais comme votre chat n'est pas un animal social habitué au harnais, il faudra dans un premier temps le désensibiliser à cette nouveauté en utilisant beaucoup de patience et de renforcement positif.
Ça, c'est vrai. C'est vrai pour tout. On lui donne un petit truc à manger,
c'est
une
ça.
Caresse.
Exactement, c'est ça, tout à fait. Alors, on commence d'abord à l'intérieur, dans la salle de bain, par exemple, une pièce assez restreinte, une petite pièce. Et si le chat panique, vous n'aurez pas à courir après lui. Je parle avec la laisse,
ouais,
là, avec
ouais, le harnais.
Le harnais, c'est ça. Alors, on va tout d'abord sortir le harnais, récompenser le chat pour qu'il fasse une association positive avec l'objet. Puis, on laisse le harnais par terre. Mm-hmm. On joue autour, on disperse des gâteries à proximité pour qu'il fasse une association entre les deux. Puis on va tranquillement mettre le harnais à l'animal en lui donnant de la nourriture.
Ouais.
Toujours la récompense qui est au bout. Hein?
Pavlov, bonjour.
Ah, tout à fait. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ce sont tous les chats qui vont réussir? Bien, il semblerait que non. Il faudrait procéder par étapes et ne pas s'attendre à des résultats instantané d'abord,
ouais,
et des résultats miracles non plus. Parce que certains chats ne pourront jamais dépasser leur peur, alors que d'autres vont apprendre très rapidement.
C'est comme les humains, finalement.
C'est tout à fait ça, exactement.
D'accord.
Alors, une fois que tout va bien avec le harnais à l'intérieur, que le chat ne reste pas immobilisé par terre, on commence à le jouer en le portant. On va se promener un peu en laisse, toujours à l'intérieur. Puis, ce sera le temps de faire les premiers pas à l'extérieur. Mais uniquement...
Attendez, là, j'ai peur, là, s'il est extérieur. Qu'est-ce qui se passe si on rencontre un chien?
Non, il faut le tenir dans ses bras. Et si on croise un chien, il ne faut pas prendre de risque, il faut le prendre dans ses bras. Et de toute façon, au point de départ, en commençant, il faut toujours le tenir dans ses bras, mais avec la laisse. Parce que, simplement, c'est une question d'apprivoiser tranquillement. Hein?
Hein?
Alors, si certains chats ont déjà été errants, et ne sont pas impressionnés par l'extérieur. D'autres, au contraire, vont devoir s'habituer au bruit, aux voitures, aux chiens. C'est énormément de stress à l'extérieur.
J'imagine.
Il faut commencer par aller sur le balcon, par exemple, les marches de l'entrée. Alors, simplement, qui s'habitue à tous les bruits, tout ce qu'on sent à l'extérieur. Si tout va bien, on va un peu plus loin. Sinon, on reste là et on Toujours la récompense. C'est la même chose que l'animal de cirque, en fin de compte. Hein?
Ah oui.
Et une fois que le chat se sentira en sécurité, les balades vont enfin commencer. Alors, deux options s'offrent à vous. Promener Midou ou vous faire promener. Un petit peu comme,
ben,
un petit peu comme un cliché.
Je préfère promener un minou que promener un petit cochon, comme vous m'aviez proposé la semaine dernière,
oui, il était mignon, mon petit cochon, quand même.
Ah, il était mignon, oui.
Et ensuite de ça, on peut suivre le chat, le laisser explorer, comme, comme on ferait avec un chien, mais il faut lui donner des instructions claires. En fait, la même chose qu'on ferait avec un chien, en fait, qu'on marchait uniquement sur le trottoir, sans oublier de... toujours le récompenser. Habituellement, les chats aiment ça. Et on a dit un petit avis aux hommes célibataires. Apparemment, se promener avec un chat, c'est très attrayant.
Oh oui, c'est vrai.
Ah oui, parce que les femmes vont aller, ah, vous avez un beau chat.
D'accord.
Et on amorce la conversation.
D'accord.
Alors, se balader avec son chat lui permet d'être stimulé psychologiquement et physiquement. En fin de compte, ce qu'elle nous dit, c'est ça n'a que de bons côtés, ce qui pourrait vous aider à régler pas mal de problèmes de comportement. Et n'oubliez surtout pas de mettre les vaccins de Minou à jour et vous assurer qu'il est micropucé, qui porte une médaille au cas où vous le perdriez. Et il faut penser aussi que si on va en voyage avec le chien, si on a passé des frontières, il faut absolument avoir des certificats.
Sans pas de passeport pour le chat?
Pas de passeport, mais passeport avec les vaccins, cependant.
D'accord.
Autrement, on pourrait vous dire non, vous ne passez pas ou vous abandonnez Minou.
Et puis est-ce qu'on leur met des petits chaussons pour marcher dans la neige?
Ben, ça peut être intéressant, hein? Stéphanie Vallée nous en parlait, mais elle parlait pas des petits chaussons, cependant. C'était dans la presse du 25 octobre.
It's a lovely day today. So whatever you've got to do, you got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do, something that can be done by two. For I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
It's a lovely day today. So whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true.
And I hope whatever you've got to do,
something that can be done by two.
For I'd really like to stay.
It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
But if you've got something that must be done,
and it can only be done by one,
there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying,
what a lovely day for saying,
it's a lovely day for saying,
it's a lovely day.
Oh, it's a lovely day today. Mais oui, it's a lovely day, c'est Perry Como. Je suis sûr que tout le monde a connu Perry Como.
Bon, pas tout le monde, là.
ben non, Perry Como, c'est l'époque de Frank Sinatra et des vieux classiques, ça, Bing Crosby, etc. De mon époque, quoi.
D'accord. C'est la mienne aussi, pourtant. Alors, moi, je vais vous parler d'une pharmacie dans la cuisine. Michel nous parlait des vaccins, là, mais croyez pas qu'avec cette pharmacie-là, on va pouvoir vacciner les chats.
Ah oui, ça m'inquiétait, ça.
Non, soyez tranquille. Ça, c'est un article qui est extrait de Ça m'intéresse du mois de septembre 2014. Alors, donc, les produits de la pharmacie de cuisine, ce sont les épices, ce sont les herbes aromatiques et elles ont un pouvoir gustatif. Ça, c'est la première raison pour laquelle on les utilise. Mais elles peuvent aussi se révéler bénéfiques pour l'organisme. Parce qu'en effet, les épices jouent un rôle de maintien de l'équilibre de nos métabolismes. Bon, elles agissent en premier lieu sur la sphère gastro-intestinale. Et vous savez peut-être qu'en Alsace, les Alsaciens avaient traditionnellement l'habitude de mettre des baies de genièvre et de coriandre parce qu'ils avaient remarqué qu'elles aidaient à bien digérer. On sait que la choucroute, ce n'est pas forcément un plat très léger.
Pas vraiment.
Pas exactement. Hein? Ben, ils avaient remarqué ça, justement, en plus du goût que ça peut donner aussi. En effet, la plupart des épices augmentent le réflexe de sécrétion salivaire, gastrique et hépatobiliaire. Ceci parce qu'elles contiennent des molécules antiseptiques qui assurent une protection contre des bactéries responsables de diarrhée, de gastro-entérite, d'ulcères d'estomac. Et ça explique pourquoi on mange très épicé dans les pays comme l'Inde, par exemple, où les denrées ne sont habituellement pas aussi aseptisées que chez nous. De fait, d'ailleurs, les Indiens qui sont amateurs de curry, le curry, il peut y en avoir d'assez doux, mais il y en a aussi de très forts.
Oui, particulièrement.
Exactement.
Oui.
Hein. Mais ils seraient 4 fois moins touchés par le cancer de la prostate que le reste de la population mondiale. Alors, on attribue ça ou pas à des propriétés spécifiques antiseptiques. Par exemple, l'effet des épices va au-delà des organes digestifs parce que lorsque vous mangez de l'ail, par exemple, très rapidement, on retrouve dans votre haleine une odeur spécifique qui prouve que les molécules d'ail ou leurs dérivés ont été ingérées et sont en présence du système bronchopulmonaire.
Et il y a moins de chances de bactéries parce qu'il n'y a personne autour de vous.
Exactement. Excusez-moi. Bon, ainsi donc, rapidement absorbés dans l'estomac, certains principes actifs des épices peuvent atteindre également le système nerveux. Et c'est le cas de la noix de muscade. Parce que la noix de muscade, figurez-vous qu'elle contient une molécule qui s'appelle la myristicine, qui est un puissant psychotrope. Alors, est-ce qu'il y a un risque à consommer la noix de muscade? Non, il n'y a pas de risque parce que c'est dans assez grande quantité qu'il faut l'utiliser pour avoir les effets analgésiques, anti-inflammatoires. Mais on sait quand même qu'à forte dose, elle engendre des troubles de la conscience et des hallucinations et qu'il faut donc mieux la consommer avec modération.
Ah, j'ai jamais entendu personne qui était stone à la muscade.
Eh bien non, mais figurez-vous justement, alors là j'ai un truc tout à fait spécial, je ne pensais pas vous le lire, mais je vais vous le lire. C'est l'histoire de trafic de noix de muscade.
Ah oui?
Malcolm X. Vous vous souvenez, ça c'était un film, oui. un bandit assez dangereux. En 1946, il était détenu et il a fait une expérience. C'est qu'il mélangeait à un verre d'eau froide le contenu d'une boîte d'allumettes pleine de noix de muscade. Et ça avait le même effet que 3 ou 4 joints. Ah, il raconte ça en 1965.
J'en suis étonné.
Ben voilà, en tout cas, écoutez, c'est ce que raconte cet article, ça m'intéresse. Et donc, on dit, bon, il ne faut pas en abuser. C'est comme tout, finalement. Si on en met juste un petit peu pour le goût, c'est parfait.
C'est ça.
Mais si on en met la valeur d'une boîte d'allumettes de noix de muscade, ça fait pas mal quand même. Hein? Alors, je ne vous conseille pas d'essayer. Ni vous non plus, auditeurs. Hein? N'essayez pas. Donc, ce qu'on recommande aussi, c'est de ne pas utiliser des épices trop forts ou en trop grande quantité chez des enfants qui ont moins de 12 ans. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui aussi, c'était des différences qui existent entre les épices et les fines herbes.
Ah oui, je me pose la question.
Eh bien voilà, justement, alors c'est, quand on y réfléchit, dans le fond, on trouve la réponse. C'est que les fines herbes, elles se présentent sous forme de feuilles. Elles sont généralement utilisées fraîches ou séchées. Mais en ce qui concerne les épices, elles proviennent pas des feuilles. En général, elles proviennent d'autres parties. Ça peut être les fruits, le bulbe, les graines, les écorces. Et généralement, elles sont séchées. Sous quelle forme il vaut mieux les acheter? Alors, si possible, entières, car les épices contiennent parfois des additifs quand elles sont moulues. Et donc, il est préférable que vous les mouliez vous-même. La noix de coriandre, par exemple, quand on l'achète noix, elle a un goût beaucoup plus prononcé.
Beaucoup plus de saveur.
Absolument. Par contre, les herbes, on recommande plutôt de les utiliser fraîches parce que le séchage fait perdre ses propriétés. Et c'est particulièrement le cas pour les herbes qui sont bien vertes comme le persil ou la ciboulette. Comment les conserver, que ce soit les épices ou que ce soit les fines herbes? De préférence dans un contenant hermétique, à l'abri de la lumière et dans un endroit sec. Je veux juste vous signaler un petit truc sur le romarin. C'est que quand vous faites des barbecues en été, mettez-en beaucoup parce que les composés chimiques qui se dégagent nous protègent des risques de cancer qui peuvent se développer si on utilise la viande un peu trop grillée sans mettre de romarin. Puis en hiver, de toute façon, le romarin est réputé efficace contre les infections bronchiques, les étapes grippaux, les troubles ORL et les problèmes digestifs. Rien que ça.
Une nouvelle récente qui nous provient d'Arabie Saoudite. Écoutez bien ceci. Le Conseil royal de l'Arabie Saoudite voudrait permettre aux femmes de conduire, mais à certaines conditions. Des Saoudiennes de plus de 30 ans qui ne sont pas maquillées pourraient prendre le volant, mais seulement avant 20 heures. Elles devraient aussi porter une tenue modeste. Elles pourraient être seules dans leur voiture, sauf à l'extérieur de la ville où la présence d'un homme serait requise. Finalement, pour se prévaloir de ce droit, elle devrait aussi obtenir l'autorisation d'un homme. Voilà l'évolution.
Je me passe de tout commentaire, vous permettrez, n'est-ce pas? Alors, moi, ce dont je voulais vous parler, on va tous manger du saumon à Noël pendant les fêtes, sauf Michel. Sauf Michel. On ne va pas vous parler des explications pour... Et donc, cet article, il concerne le saumon à l'épicerie ou au restaurant. Et ils disent « Apprenez à reconnaître le saumon sain et frais ». Le saumon sain, il a une chair brillante, il est de belle couleur, il a des yeux transparents. Et surtout, mettez-y, si vous voulez, votre nez, parce qu'il n'a presque pas d'odeur, contrairement à ce qu'on peut penser. On parle du saumon frais, hein? N'achetez pas de saumon atlantique, parce que souvent, il y a marqué « saumon atlantique »,« saumon pacifique », moi, je ne sais jamais rien. Le saumon atlantique, en tout cas, vous pouvez être à peu près certain qu'il provient de pisciculture. Je ne sais pas si vous avez regardé certains exposés à la télé. On n'a pas très envie de manger ces poissons-là. Donc, évitez, l'article dit, n'achetez pas de saumon atlantique. Recherchez par contre le nom des espèces. Rose, coho, sockeye, chinook, ce sont des saumons sauvages, plus souvent qu'autrement. Alors, n'hésitez pas. Manifestez votre choix auprès du commerçant en question en expliquant que vous n'avez pas trop envie de manger des poissons d'élevage et ne vous laissez pas berner par la mention frais sur l'emballage. Parce que si la mention saumon frais est portée, ça signifie qu'il ne s'agit pas de poissons sauvages. Rabattez-vous plutôt sur les délicieux sandwichs et salades de saumon. Je vous avoue que ça m'a surpris. Selon Santé Canada, le saumon en conserve est principalement produit à partir de populations sauvages. Et approvisionnez-vous auprès de votre poissonnerie locale. C'est lui qui saura mieux vous répondre quand vous demanderez l'origine du saumon.
« Ah, je vous parlais de toutes sortes de systèmes de détection tout à l'heure à l'aéroport. J'en ai un petit ici. Caché un peu partout, il y aurait des détecteurs de la pièce de la taille de pièces de 10 cents qui analysent les molécules dans l'air à chaque instant. Et ils pourraient se déclencher au passage d'une valise dans laquelle émanent de fines particules d'explosifs ou autre chose. Donc, ça fait partie d'autres. Et on nous dit que ces senseurs, ça s'appelait Sin Vapor, sont en développement au laboratoire de recherche de la marine des États-Unis. Donc, encore là, ce sont des systèmes qui sont en développement, des systèmes qui existent. Et je crois que ceci nous amène à la fin de notre émission. On espère que nos sujets vous ont plu. On essaie d'être le plus varié possible. On remercie à la mise en onde aux choix musicaux Jean-Sébastien Daliberté. Merci à André aussi.
Merci beaucoup aussi.
Et notre site, hein? Pensez à notre site canalm.org.
Oui, et puis à la semaine prochaine. Et surtout, écoutez-nous pour voir. Mais partagez aussi vos commentaires, s'il vous plaît, avec nous. Parlez-nous de vos attentes, parlez-nous de vos besoins. Notre téléphone, c'est le 1-800-361-0635, le poste 220.
Et n'oubliez pas, on est en reprise à 13h et à 21h, si vous voulez nous réécouter. Hein?
Mais oui.
On vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée, bonne semaine.